Bonjour à tous et à toutes. Je me présente Malek Bouawola. Je présente ce projet avec ma collègue Dominique Kreziak. Anne Dalmasso, qui est aussi coordinatrice de ce projet, n'est pas là et s'excuse. Ce projet dont vous lisez le titre, qui s'intéresse à l'innovation écosystémique dans le secteur du tourisme sportif de montagne, et qui est la convergence de trois projets initiaux qui s'intéressaient au rôle des institutions, des entreprises et des usages. Pourquoi ce travail s'intéresse à l'innovation écosystémique? Pour une simple raison. De toute façon, on sait comment les entreprises innovent pour s'adapter au marché ou pour anticiper le marché. On sait à peu près comment les usagers le font. On connaît à peu près le rôle des institutions dans notre région. Mais on ne sait pas exactement comment tout ça converge pour favoriser les innovations majeures qui profiteraient à l'ensemble du territoire. Voilà. Donc alors, pour arriver à les étapes, et les objectifs aussi qu'on s'est fixés pour développer ce travail, ça serait la première étape qui, quand même qui nous semble importante, c'est d'abord de produire une analyse descriptive de l'ensemble de cet écosystème en allant au-delà de la lecture sectorielle ou par filière professionnelle, mais de lire, d'essayer de décrire d'une manière la plus précise possible la composition de cet écosystème. Du tourisme sportif, je dirai tout à l'heure pourquoi le tourisme sportif. Deuxième chose, il faut qu'on vérifie, qu'on identifie s'il y a vraiment innovation écosystémique, c'est-à-dire si l'action de ces acteurs produit vraiment des innovations majeures et propres à l'écosystème rhône-alpin. D'essayer de reconstruire derrière les modèles économiques opérants. Est-ce qu'il y a des modèles économiques qui facilitent la convergence ou peut-être derrière il y a des modèles économiques qui sont concurrentiels et qui empêcheraient plutôt l'innovation écosystémique ça peut être aussi une étape importante. Derrière, s'il y a innovation écosystémique, il faut qu'on identifie les acteurs majeurs, donc les entreprises ou les acteurs leaders qui initient et qui favorisent ces innovations écosystémiques, mesurer le rôle de ces différents acteurs. On sait que les institutions au sens large, par exemple les agences de la région, participent fortement jouent un rôle très important pour l'émergence des innovations écosystémiques. Quels sont les différents rôles, quels sont les différents niveaux de ces acteurs-là? Enfin, mettre en évidence les mécanismes de régulation de cette innovation, c'est-à-dire voir ce qui la freine, ce qui l'accélère, et grosso modo, si un modèle de gouvernance de cet écosystème, comment on peut le décrire, le comprendre et l'expliquer. Ensuite, alors pourquoi le tourisme sportif en Rhône-Alpes? Tout simplement parce que dans notre région, le tourisme, qui est souvent associé à la montagne, je l'expliquerai tout à l'heure pourquoi, pèse économiquement, c'est une activité économique basique et fondamentale, elle est très très forte et ça a été intégré très vite dans la stratégie de la région. Les Alpes constituent un avantage comparatif certain. Ce secteur cet avantage comparatif à la région Rhône-Alpes ou le territoire a su construire d'autres avantages qui sont liés bien sûr aux équipements, aux infrastructures, mais au savoir-faire aussi des populations et des entreprises. La région sur ce secteur-là dépend du marché international et du marché national, donc il y a des acteurs internes et des acteurs externes au niveau de la clientèle aussi. Bien sûr, le marché régional est important aussi. Et la compétitivité, donc, si on regarde un peu l'évolution du marché du tourisme, on voit bien que le développement du voyage aérien et surtout d'Internet ont réduit un peu l'espace ou les distances entre les régions. Des régions qui étaient en faible concurrence parce qu'elles étaient éloignées, par le fait du baisse du coût du voyage et par le fait que les consommateurs puissent les comparer sur Internet, a augmenté la concurrence, la pression concurrentielle entre les différents territoires. Du coup, l'innovation paraît comme étant un élément très important pour répondre à cette concurrence et augmenter la compétitivité et l'attractivité de ces grands territoires, régions qui ont fondé leur économie, stratégie économique sur le tourisme. Alors j'en veux pour preuve le 7e DSI de la région Rhône-Alpes qui a défini et qui a pu valider ça au niveau européen, 7 domaines stratégiques d'innovation dans sa stratégie régionale d'innovation. Et le 7e est clairement fléché sur le sport, tourisme et aménagement de la montagne. Donc c'est vraiment un indicateur de l'intérêt de cet écosystème. Alors, le tourisme sportif en Rhône-Alpes, pourquoi ? Enfin, et puis il est fondamentalement associé à la montagne. On a quelques chiffres. Ici, on voit que la région Rhône-Alpes est quand même la deuxième région touristique de France en termes de consommation captée. Elle représente 12% de la consommation touristique nationale, ce qui représente plus de 17 milliards d'euros. Et si on regarde la nouvelle région, ceci n'est pas remis en question, puisque la nouvelle région, Rhône-Alpes-Auvergne, devient la première région de montagne en Europe et va représenter à peu près plus de 20 milliards de consommation touristique qui est associée donc essentiellement à la montagne. Donc je vous laisse voir les indicateurs qui démontrent bien de la force de cet écosystème et de son intérêt. Maintenant, peut-être quelques mots pour qu'on puisse comprendre ce qu'on veut dire, nous, par un écosystème d'innovation. On s'inspire de l'écosystème d'affaires qui a été défini par James Moore et qui lui-même s'inspire de l'écosystème en biologie, hein, qui démontre bien que dans les écosystèmes biologiques, je parle sous le contrôle de Jean-Pierre Mounet qui est là, et on voit où les espèces coévoluent, elles sont en compétition, mais en même temps en coopération, mais elles trouvent une évolution, une synergie au niveau de leur évolution, ce qui permet à l'écosystème donc de perdurer et de se développer. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse parler d'écosystème ? Il faut qu'il y ait des acteurs en présence. Qui vise un objectif commun, en l'occurrence pour nous ici, c'est donc la compétitivité par l'innovation, et qui cherchent donc à augmenter les bénéfices pour leurs clients et bien sûr à attirer, augmenter leur part de marché, attirer d'autres clients. Donc ici, l'innovation collective devient donc un moyen approprié pour attirer d'autres parts de marché, continuer à se développer. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour qu'il y ait vraiment, pour qu'on puisse appliquer cette notion, il faut qu'il y ait quand même ces deux concepts de coévolution et de coopétition qu'on va essayer de vérifier en ce qui concerne l'innovation dans l'écosystème du tourisme sportif en montagne. Donc, je vous ai mis quelques... Il y a des écosystèmes qui sont très connus et qui marchent bien. Il y a le numérique aussi. Donc, l'écosystème d'affaires émerge lorsque les modèles traditionnels trouvent leurs limites, c'est-à-dire le marché ou l'entreprise. Et au-delà, on peut dire même la filière ou la vision sectorielle, lorsqu'elle atteint ses limites, l'écosystème peut être une alternative pour comprendre le fonctionnement de tout un ensemble d'acteurs autour d'une activité économique ou industrielle. Donc, en matière d'innovation, donc les innovations majeures qui vont faire la différence entre les différents territoires ou les grands territoires, régions touristiques, il semble que l'écosystème d'innovation est une alternative qu'on vérifiera bien sûr et qui présente donc aussi une alternative au niveau de la facilitation de l'innovation. Donc, quelques caractéristiques pour comprendre, je ne vais pas tous les citer, mais pour qu'on puisse parler d'écosystème, il faut vérifier de l'existence de ces caractéristiques, ce qu'on a déjà commencé à faire. Et ce qui est très important, c'est bien sûr la diversité des acteurs, etc., mais aussi l'existence d'un alignement de la vision des acteurs majeurs. Hein, donc qu'il y ait un partage d'une même vision autour de cette question-là, par exemple, de l'innovation, ce qui n'est pas toujours facile. Alors, notre écosystème, il est clair, il est ancré dans le territoire de la région par le fait que son avantage comparatif, c'est la montagne. C'est spécifique. On a plusieurs filières, on a plusieurs secteurs qui convergent autour de cette question-là. Ça fait appel, bien sûr, à différentes compétences, à différentes ressources. Et donc, on voit bien ici aussi qu'il y a une coexistence entre aussi, par exemple, des acteurs qui viennent autant de la recherche et développement ou de la production. Et même, bien sûr, il y a des acteurs spécifiques en ce qui concerne le financement aussi. En gros, en résumé, notre écosystème est spécifique au sens de Moore parce qu'il se rattache, il est ancré territorialement, il n'est pas délocalisable. Donc on ne peut pas développer, j'allais dire, de l'activité autour du tourisme sportif de montagne si on n'est pas, donc, associé à un territoire particulier. Voilà. Je laisse le micro à Dominique.
Merci. Alors effectivement, ce projet, il est la résultante d'un mariage qui a eu lieu au sein du LABEX entre des équipes qui se sont rencontrées, on doit dire, à cette occasion. Et puis on a mis un peu sur la table ce qu'on avait envie de faire et nos idées, nos représentations de ce sujet. Et finalement, on a pu aboutir à un schéma où on voit à peu près les contributions relatives des uns et des autres et puis les synergies possibles. Et ça nous a paru tout à fait se marier harmonieusement dans cette notion d'écosystème où chacun contribue. Donc nous, on va essayer, sur le plan du terrain, d'identifier des entrées possibles, mais pas du tout au sens restrictif du terme, parce qu'on se doute, on entend bien que ces éléments, en tout cas ces trois grands acteurs, hein, institutions, entreprises au sens très large, mais institutions au sens très large et usages ou usagers au sens très large, sont à la fois, enfin, interviennent à différents moments du processus d'innovation et en synergie. Ah, alors, il me manque une commande. Ah, voilà. Oups, merci. Juste avant. Voilà, alors schématiquement, on s'est retrouvé effectivement autour d'un schéma un petit peu comme celui-ci, en disant finalement il y a un prisme et chaque équipe plus ou moins va s'occuper d'un des sommets de son triangle et essayer de voir à travers notamment des études de cas, différents moments à différentes maturités par rapport au processus d'innovation, quelles sont les contributions relatives et quel rôle ont joué les autres pointes du triangle dans des processus, soit de succès, par exemple économique, ou alors de succès en termes de diffusion d'innovation, ou alors de succès en termes, même si ce sont des petits marchés de niche, même pas forcément des marchés d'ailleurs, mais en tout cas le développement de ces activités. Alors, En termes d'institutions, je l'ai dit, on l'entend au sens très très large, puisque institutions, ça peut être des institutions privées, des institutions publiques. Alors on sait qu'il y en a sur cette région-là, les clusters, l'ARDI, on en a parlé tout à l'heure, les collectivités territoriales qui ont leur rôle à jouer à des moments donnés, soit en termes d'initiation des projets, soit en termes de soutien aux projets, ou alors de financement, enfin différents dispositifs. On va retrouver une entrée, bien entendu, entreprise à plusieurs niveaux. Alors que ce soit au niveau des évolutions des métiers, notamment des métiers de l'accompagnement du tourisme sportif, hein, des guides, des moniteurs, etc., comment leur métier évolue et puis son facteur d'innovation ou en réponse à l'innovation. Et bien entendu, il y a toujours toute cette idée de synergie. On va trouver à ce niveau-là des entreprises qui vont innover en termes de produits ou de services. Et bien entendu, comme on est sur un territoire de montagne, il y a une dimension d'aménagement du territoire à travers les stations de ski qui est ou des stations, disons, de montagne, qui sont un acteur tout à fait fondamental dans ce système-là. Donc, quand on écrit entreprise, c'est vraiment au sens très très large, de la micro-entreprise avec un accompagnateur de moyenne montagne, par exemple, jusqu'à des stations de ski. Et en termes d'usage, notre point d'entrée, ça va être de dire que les usages évoluent indépendamment des autres acteurs. Des usagers font évoluer leurs pratiques par envie, pour différentes raisons qu'on va sans doute explorer, avec des usages qu'on va qualifier d'émergents, on les avait pas vus avant, et parfois on va les qualifier de dissidents. Alors c'est plutôt cela qui nous intéresse, c'est-à-dire des choses qui ne correspondent pas à la norme, avec bien entendu toute la difficulté de définir ce qui peut être des pratiques normales ou normées, on en est bien d'accord. Mais ça nous paraît historiquement aussi être un creuset d'innovation par ces usages dissidents, divergents, qui vont créer de la nouveauté sur ces terrains-là. Alors, il n'y a pas que les pointes du triangle qui nous intéressent, bien entendu. C'est quand on s'est rencontrés avec Anne... je crois qu'elle a dû s'éclipser. Donc Anne, Malek et moi, enfin les trois équipes, finalement on s'est aperçu qu'il y a les côtés nous intéressaient au moins autant que les sommets de ce triangle. Alors par exemple dans l'approche des usages, il est évident qu'il y a des liens de synergie avec l'approche institutionnelle, puisqu'il y a tout l'aspect potentiellement de réglementation, d'évolution de la réglementation sur la sécurité, sur l'usage des lieux, l'usage des tiers-lieux, etc. Le fait que certaines fédérations vont s'approprier ou tenter de se réapproprier des pratiques dissidentes pour les réinstitutionnaliser ou les institutionnaliser. Donc il y a des choses qui vont se passer sur ce côté-là. Entre les institutions et la partie entreprise, il y a bien entendu plein de choses qui sont en train de se passer ou qui se sont passées autour des rôles respectifs de leadership dans des processus de demande et d'obtention de financement, de soutien ou pas des institutions par rapport à des initiatives privées. Donc là aussi, il y a un terrain qui sera très intéressant, on le pense. Et ensuite, je les ai présentés dans le désordre, je dis ensuite, mais il n'y a pas d'ordre de hiérarchie, mais je suis bien obligée de commencer d'un côté. Entre les usages émergents et dissidents et les entreprises, il y a bien entendu derrière cette notion de lead user innovation, avec l'idée que l'histoire du sport, mais l'histoire aussi de l'innovation, montre que des initiatives individuelles, des usages divergents, vont finalement, pour un certain nombre d'entre eux, être appropriés par des entreprises qui vont utiliser comme une source d'idées ou une source d'inspiration et rentrer potentiellement dans certains cas dans des processus de co-innovation. Donc c'est une vision de l'innovation par les usages, mais pas dans le sens où on l'entend parfois, où l'entreprise a des idées, elle les fait tester, mais plutôt l'entreprise observe et est en éveil par rapport à des pratiques émergentes qui pourraient, pour certaines, se transformer en marché. Inversement, il peut y avoir l'étude évidemment des processus d'adaptation, de diffusion et de modification des pratiques à partir d'une innovation d'entreprise. Voilà, donc il y a des points d'entrée dans tous les coins. Alors on va pas forcément tout faire et surtout pas sur tous les cas, mais notre idée, je reviendrai là-dessus parce que j'ai besoin d'aller à la suite en fait. Ah bon, il m'en manque un petit morceau, je suis désolée. Alors on va remonter s'il te plaît au triangle encore une fois. Voilà. Alors, en termes de méthodologie, on est évidemment sur des méthodologies qualitatives et surtout des études de cas. Alors, je peux pas faire la liste de tout ce qu'on a prévu parce que chaque équipe est assez autonome dans sa méthodologie. Mais notre idée, c'est de trouver à la fois des sujets d'études propre à chaque pôle, si je puis dire, et puis des points de rencontre. Et une idée qui nous a beaucoup séduit, c'est d'avoir des études de cas avec des degrés de maturité différents, avec des choses qui ont fonctionné ou alors qui n'ont pas fonctionné, mais sur lesquelles on peut tirer des conclusions en termes de cycle de vie complet, des choses qui sont en train de se passer, et puis des choses qu'on pourrait repérer comme tout à fait émergentes, où on n'a pas d'idée de leur devenir. Et puis 3 ans, ça permet de les voir... de les voir quand même évoluer, de voir potentiellement quelle trajectoire ça va prendre. Donc on est plein d'espoir parce que c'est le début du projet. Peut-être qu'on sera complètement déçus à la fin. On verra. Alors il y a déjà des éléments de résultats, mais je reconnais que je suis pas forcément très à l'aise sur ce morceau-là. Alors je vais peut-être te laisser 30 secondes le
micro. Sur les premières observations qu'on a commencé à faire pour vérifier déjà ce que j'avais présenté plus haut, si on a l'ensemble des indicateurs ou des caractéristiques d'un écosystème, on voit que on les a organisés comme ça, on est rassuré, on a l'ensemble des caractéristiques et qu'on définit, puisque sur le cercle le plus large, c'est on retrouve toutes les institutions, qu'elles soient publiques ou marchandes. C'est des groupements d'entreprises ou des acteurs de la recherche et de la recherche et développement, on les a tous, du financement, on a l'ensemble des ingrédients, si je puis dire, des usages, on retrouve l'ensemble des usagers, qu'ils soient donc dans les usages émergents, dissidents ou dans les diffuseurs, et on a donc les entreprises d'appui qui sont les sous-traitants, les fournisseurs, ils existent. La grande question, c'est la grande question, c'est celle des entreprises pivots, puisque ces entreprises pivots, on va pouvoir les définir à partir du moment où on définira, où on identifiera les innovations majeures écosystémiques. C'est la grande question. Donc c'est la question qui se pose d'ailleurs aux acteurs que j'ai rencontrés déjà, c'est la question de jusqu'où je vais coopérer, en sachant que je vais coopérer avec des acteurs qui sont mes concurrents. Donc c'est là où on va creuser davantage dans la prochaine étape.
Voilà, juste pour dire 2 mots des équipes. Alors, je sais que j'ai pas mis tout le monde parce qu'on est déjà assez nombreux, mais l'idée c'était de dire qu'il y a plusieurs laboratoires concernés par ce projet. Il y a même des gens qui sont sur plusieurs axes parce qu'ils étaient dans les projets précédents et c'est très bien. Et on espère que ça va faire quelque chose de fructueux. Voilà. Je pense que vous connaissez tout le monde en fait, je crois. Voilà. Merci. La montagne qui...